This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'un épisode des Jarrettes, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Eric Bouche de Téléstar, et pour m'accompagner dans ce podcast sont présents à mes côtés la Blanche Colombe, défenseur des clubs opprimés, Marion Olité de Combini.
Salut Eric.
Le sanguinaire va-t-en-guerre Pierre Langlais de Télérama.
Hello, hello.
Et le vil conspirationniste Frédéric Rapilly de TS7 Jours.
Salut.
Next one. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Bureau des légendes dont la quatrième saison arrive sur Canal+, et plus généralement à la géopolitique dans les séries. Le tout, non pas en 24 heures chrono, mais en 30 petites minutes chrono. Alors, mes amis, présentez armes, c'est parti pour une nouvelle émission d'un épisode des Jarrettes.
Malotru n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se cacher. La Russie est un sanctuaire pour lui. Très délicat pour nous d'intervenir. Et si on alerte les autorités, ils en profiteront à mort et on n'est même pas sûr qu'ils nous le rendent. Moscou, c'est là que j'irai. C'est immense. C'est une fourmilière. Je passe inaperçu, il y a tous les moyens de communication possibles. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait. Et si on le retrouve, il sait qu'on n'osera rien faire.
Alors, avant d'élargir le débat sur la géopolitique dans les séries et sur le message qu'elle véhicule, plongeons-nous d'abord dans cette quatrième saison du Bureau des légendes, crème de la crème des séries françaises. Une saison qui semble démarrer un nouveau cycle. Et elle accueille des nouveaux personnages et des nouveaux acteurs, comme Mathieu Amalric, par exemple, qui joue le directeur de la sécurité de la DGSE, bien décidé à faire le ménage dans le bureau. Alors, que, mes amis, que pensez-vous de cette nouvelle saison du Bureau des légendes? On a eu des petites difficultés d'abord à voir les épisodes, en effet.
C'est secret défense, hein, c'est bien protégé. Donc évidemment, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, comme on dit chez les professionnels, nous n'avons la plupart d'entre nous vu que 2 épisodes, ce qui est vraiment que le commencement du commencement. Donc nous n'avons pas la prétention de critiquer l'ensemble de la saison, mais juste ses prémices. D'ailleurs, les 2 épisodes, c'est ce qui avait été montré au Festival de La Rochelle aussi. Donc quoi qu'il en soit, on est quelques-uns à les avoir vus. Qu'en dire que c'est toujours vachement bien, enfin en tout cas de ce que j'ai pu en voir moi, que Eric Rochant, après s'être tourné plutôt vers le Moyen-Orient, vers la Syrie particulièrement, puis vers la France et l'intérieur, là s'intéresse à la Russie. C'est ce qu'on comprend assez rapidement. Alors évidemment, on peut toujours être surpris, ça se trouve dans les épisodes d'après, on change de lieu. Mais en tout cas, tout ça démarre en partie en Russie. Et donc évidemment, il y a des tensions qui sont à la fois de l'ordre de la façon dont la Russie peut gérer ses relations internationales et de l'ordre de l'affrontement des différents services de sécurité. C'est ça qui est intéressant, c'est que Malotru est traqué, ça on le sait depuis la fin de la saison d'avant. Et du coup, on va voir comment les Américains, les Français, les Russes, comment tout le monde essaye d'attraper cette boule puante qui est Malotru et comment lui, évidemment, parce que ce qui est intéressant dans la série, en tout cas depuis qu'elle est réussie, c'est qu'on a aussi un côté émotionnel, comment lui va gérer tout ça, à la fois en tant que super espion et comme homme face à cette disparition qui est la sienne et comment va-t-il exister dans cette disparition. Enfin voilà, en tout cas moi ce qui m'excite sur cette saison 4.
Ouais, pour moi, pour aller dans ton sens, Malotru, je le vois limite un peu comme une figure un peu christique dans le Bureau des légendes. Et en fait, après avoir expié ses péchés passés et avoir été donc torturé en saison 3, là, je sens pour lui, peut-être, vient le chemin de la rédemption. C'est-à-dire que, bon, a priori, tout le monde veut le choper et ça commence mal pour lui en Russie. Il n'est pas forcément pote avec la DGSE. Mais moi, j'ai quand même dans l'idée que il va encore jouer un double ou un triple jeu qui va faire qu'on va quand même aller vers une sorte de rédemption. Pendant ce temps-là, la DGSE, elle est en train de, elle est dans une phase de R post-Henri Duflo, où elle doit panser ses plaies et aussi gérer les conséquences des dysfonctionnements qu'il y a eu en saison 3, que ce soit avec Malotru qui leur a échappé ou avec la mort d'Henri Duflo. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va voir aussi beaucoup, c'est au sein de la DGSE, comment Marie-Jeanne va gérer son équipe et comment donc le nouveau venu, Amalric, va tenter de semer la zizanie en jouant la police de la DGSE.
Ouais, est-ce qu'il y a en plus une sorte de nettoyeuse qui arrive dans les locaux, enfin qui est là en tout cas pour tout inspecter et pour éventuellement déceler les failles parce qu'il y en a eu.
Frédéric, t'en as pensé quoi toi ?
Alors moi j'ai eu la chance de voir deux épisodes de plus
mais
que
il y a
vous.
Des contacts.
Je vous dirai pas comment, mais voilà. Non, moi j'ai trouvé, moi ce que je trouve passionnant, c'est une série. Il y a pas de gros effets. C'est vraiment intelligent tout le temps. Enfin, on est surpris. Moi, je sais jamais où ça va aller. Et pour reprendre ce que tu dis, Malotru, en fait, on sait pas s'il est idiot, stupide, super intelligent, à la loose. Et en fait, on hésite tout le temps.
Maintenant, après trois saisons, on se doute qu'il est malin quand même. Hein. Mais il a un côté un peu comme ça, presque suicidaire. En tout cas, au début, on se dit, mais il veut se faire choper ou quoi? Enfin, c'est quoi son idée?
En fait, c'est assez intéressant. Et en plus, je trouve que dans géopolitique, mais je trouve que ce qu'on montre de la Russie, en gros, de la Russie, des jeunes Russes, est assez étonnant parce que il y a un campus avec des hackers et des jeunes spécialistes en informatique. Et l'image qu'on en montre, c'est pas du tout celle qu'on imagine de la Russie. Donc c'est assez surprenant.
On est loin de la caricature James Bondienne de la Russie avec des super agents secrets et des filatures et des trucs. C'est pour le coup, en plus, on est en banlieue de Moscou. Enfin, il y a un côté beaucoup plus cru et a priori réaliste. C'est un des grands points forts du Bureau des légendes. C'est de faire de la démythification de l'espionnage, tout en parvenant malgré tout à ce que ça reste hyper excitant. Donc c'est ça qui est très réussi dans la série, je trouve.
Ce qu'il y a, c'est qu'on nous montre quand même le FSB dans cette saison. Là, pour le coup, le FSB, c'est un peu l'image qu'on avait du KGB à l'époque. Autant les jeunes ont ce côté, en effet, plus moderne, autant les services secrets eux-mêmes, on reste quand même dans cette image du KGB très dure, très violente. Il y a des scènes en prison aussi qui sont assez hallucinantes.
Ouais, après, je pense que c'est réaliste par rapport au service qui était le KGB et à ce qu'est le FSB aujourd'hui, quoi. C'est des méthodes qui sont plus violentes, peut-être que celles utilisées par la DGSE. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça semble.
On ne sait pas. D'ailleurs, quand on demande à Éric Rochant comment il sait tout ça, il dit qu'il a des taupes, mais il ne veut pas en dire plus.
En fait, moi, j'ai eu la chance aussi de lire. Il y a un bouquin qui va sortir un petit peu avant. Je ne sais pas si vous l'avez. Et en fait, qui est pas un bouquin super. Comment érudit, mais qui est assez intéressant, qui raconte ce qu'il y a de vrai et de faux dans la série, et notamment le personnage de Mathieu Almaric qui vient en fait jouer les inspecteurs et foutre la DGSE en l'air. Ça, c'est tiré d'une histoire vraie, comme les surnoms un peu bizarres. On explique que
Moule à gaufre, Malotru. Voilà.
Oui, que les agents saboteurs de la France libre à porter des noms de marteau, de binette, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Après, ça cherche pas à dire que la série est parfaitement réaliste. Il y a des trucs.
C'est vrai que sur Amalric, par exemple, moi, naturellement, enfin, au départ, dans ma critique éventuellement des deux premiers épisodes, j'avais envie de dire que ce personnage me rappelait un peu Vogel dans Braco. Genre, le mec, c'est le méchant de service, il va arriver, il veut foutre le bordel, il est complètement paranoïaque. Et du coup, celui-là, je m'étais dit, il est un peu cliché. Et en fait, j'ai interviewé donc l'auteur de ce livre de décryptage du Bureau des gens de cet après-midi. Et j'ai lu, parcouru le bouquin. Et effectivement, en fait, c'est un mec, c'est JJA, c'est un mec qui a vraiment existé et qui était à la tête de la CIA pendant 20 ans, ouais. Qui était complètement parano et qui a foutu la zizanie, donc même ça c'est inspiré de faits réels en fait.
Et même la question que ça pose qui est très intéressante, c'est qui est d'ailleurs une des questions de fond d'éthique de la série, c'est en gros jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour, enfin d'ailleurs de pas mal de polars par ailleurs, hein, c'est-à-dire que les services secrets, est-ce que le top finalement du service secret, c'est le service secret irréprochable qui fait tout en respectant les règles, parce que c'est comme ça justement que tu protèges ton pays, c'est en étant irréprochable, ou est-ce qu'un agent comme Malotru, qui est un gars qui a brisé les règles pour des questions d'humanité, c'est finalement pas ce qu'il y a de mieux, et est-ce que l'humanité, le Bureau des légendes, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochait au début à cette série, c'était de manquer un peu de chair et un peu d'humanité. Quand elle a commencé à avoir de la chair, c'est là qu'elle est devenue absolument passionnante, parce qu'il y a cette affrontement entre l'humain et l'information, qui est la chose la plus froide et la plus terrible qui soit, et comment ces deux choses-là vont pouvoir cohabiter. Le personnage de Marina Loiseau est absolument fascinant parce que elle a l'air d'être cette femme toute fragile, très émotive, alors qu'en fait c'est une des agents les plus efficaces qui soit du Bureau des Légendes.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle phénomène pendant les premières saisons. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'on finira sur un bon vieux combat entre Malotru et phénomène en fin de saison. Et que c'est peut-être elle qui finira par amener Malotru à la maison. Parce que les deux sont en Russie au début de la saison.
Ouais. Alors finalement, on s'intéresse moins à la géopolitique dans cette série qu'au ressort dramatique des personnages, non ?
C'est un fond qui est... En fait, il faut l'analyser, mais c'est un fond qui est super intéressant. Et c'est une des raisons qui fait que le Bureau des Légendes est réussi. C'est-à-dire que c'est pas une leçon de géopolitique. Il n'y a pas d'explication, c'est pas didactique. C'est un fond. Il faut que le fond soit crédible, y compris sur ce que ça pouvait dire, par exemple, dans la saison 2, si je dis pas de bêtises, sur les gens qui reviennent d'avoir fait le djihad et sur la dangerosité des revenants et de toutes ces choses-là. En fait, il faut que ça soit pointilleux. Et on fait confiance à Rochand pour aller étudier, pour être le plus précis possible. Mais il faut pas, évidemment, que le fond géopolitique sacrifie le drame. Faut que le drame garde une part importante. Et si c'était froidement géopolitique, on serait sans doute pas ému comme on peut l'être par cette série.
Ouais, moi, avant qu'on fasse l'émission, je discutais avec Marion. En fait, j'expliquais. Bon, ma sœur est mariée à un attaché militaire en Égypte.
T'as un point rouge sur le front. Attention.
Ouais, je sais, mais c'est plutôt vous. Et en fait, il y a deux ans, moi, je connaissais pas trop bien la série, et ma sœur m'appelait pour me dire, tiens, tu connais cette série ? Nous, on la regarde au Caire parce que ça nous fait rigoler, parce qu'en fait, ça raconte notre vie. Et alors, ma sœur n'est pas un agent secret, mon beau-frère n'est pas un agent secret, mais les agents secrets ou les tout ça, c'est mélangé. Et en fait, la série est suffisamment réaliste. Enfin, il y a cette idée de make believe. Enfin, il y a, un proverbe. C'est suffisamment make believe pour que tu aies l'impression que ce soit véridique. Comme tu dis, ça suffit pour qu'on ait l'impression d'être immergé.
Mais en fait, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Frédéric, il y a quand même pour qu'on y croit, il y a quelques passages qui sont des fois didactiques. En saison 3, quand Nadia Al-Mansour se retrouve à la Commission européenne à œuvrer pour le processus de paix en Syrie, elle reçoit donc tous les leaders en Syrie, et il y a toute une scène où il y a un leader qui essaie d'expliquer, en disant qu'il a essayé de raconter à sa petite fille les différents protagonistes de la Syrie et pourquoi machin est en guerre avec bidule, de la guerre civile. Et en fait, au bout de 3 minutes, d'ailleurs, le spectateur comme le mec qui est en train de raconter, il dit non, j'ai pas réussi à faire comprendre ça à ma petite fille. Mais donc la géopolitique, c'est très complexe, mais en même temps c'est quand même passionnant. Donc il faut quand même qu'ils sachent précisément de quoi ils parlent. Et dans cette scène, on comprend quand même qu'ils savent de quoi ils parlent, même si ça nous paraît un peu opaque. Enfin, je sais pas si tu vois. C'est...
Oui, tout à fait.
Mais bon, ça fait partie du charme de la série, ce côté opaque.
Ouais.
Et qui fait d'ailleurs que parfois dans le bureau, il y a des discours, il y a des dialogues très très cut, très didactiques, etc. Quoi.
Ok, bon, bah nous allons refermer le chapitre Le Bureau des Légendes. D'abord, nous n'avons pas vu suffisamment d'épisodes pour le traiter en plus grande profondeur. Et nous allons passer à la géopolitique plus généralement dans les séries.
Dr. Ryan, I need you to come with me.
What?
We have to go.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind.
What have you got?
The individual behind these transactions could be a high-level target. His name is Suleiman.
How come you're the only one that knows about this mystery man?
I was just following the money, sir.
They have cells in France, Yemen, Syria, and those are just the ones we know about. There's something different about his agenda.
I'd like to set up a task force.
Whatever he's planning, he's ready now.
Alors, c'était Jack Ryan.
C'est tellement cool, le terrorisme.
Alors là, en effet, tout de suite, on voit qu'on fait pas dans la dentelle, hein, que c'est nettement plus burné. En effet, si les scénaristes français, avec le Bureau des Légendes, essayaient de traduire un monde géopolitique plus réaliste et essayaient d'éviter de sombrer dans une vision binaire du monde, les Américains, dans leurs séries, souvent, n'ont pas autant de scrupules. Alors, je voulais vous demander, vous, ce que vous pensiez des visions géopolitiques du monde à travers des séries comme 24 heures chrono, Homeland ou Jack Ryan.
Bah, c'est très différent en fonction des séries dont on parle là, parce que c'est vrai que Jack Ryan, on en a parlé ici dans un épisode des Jarrettes, c'est une série qui est quand même assez binaire, alors qu'il prétend nous montrer en fait les tourments émotionnels du terroriste syrien, etc., et de nous expliquer pourquoi il veut se venger de l'occidental, etc., mais c'est quand même relativement le gentil américain qui lutte contre le méchant terroriste, et c'est pas très très fin. 24 heures chrono était déjà plus intéressante pour ce que ça disait plutôt de la posture de l'Amérique. au sens paranoïaque, au sens tout ce qui vient de l'extérieur, voire de l'intérieur, c'est une menace et on peut tous y passer. Quant à Homeland, c'est d'une autre trempe. Les dernières saisons d'Homeland sont très fines sur ce que ça dit, notamment la saison qui se passe en Allemagne, de la menace terroriste, de sa complexité, de ses réseaux, etc. Homeland, après des débuts qui étaient très simples sur l'émotion américaine en réaction au 7 septembre, etc., est devenue une série qui dit des choses assez fines sur sur à la fois l'Amérique et le, c'est ça qui est fort dans les séries américaines, c'est que ça dit beaucoup de choses à la fois sur comment l'Amérique gère le terrorisme et la menace et les problèmes géopolitiques et comment le reste du monde est en perpétuelle remise à jour de dangerosité, si j'ose dire, parce qu'à chaque saison on peut trouver une autre menace.
Et c'est ça presque qui peut un peu lasser dans Homeland. Moi, je t'avoue que sans doute que les dernières saisons de Homeland sont très bien, très précises et très intéressantes quant au terrorisme international. Pour moi, Homeland, ça reste les premières saisons avec Brody et Carrie. Ça reste cette espèce de grande série parano qui sait pas où donner de la tête avec ses personnages traumatisés et perdus qui quand même qui cherchent une connexion l'un vers l'autre. C'est ce que j'aimais aussi dans Homeland et c'est ce qui faisait aussi la différence avec des séries comme 24 heures chrono ou même Jack Ryan où pour moi on est quand même sur des héros assez conservateurs, de la virilité masculine aussi, faut le dire. Homeland n'était pas dans le bon parce qu'elle a aussi une héroïne féminine, mais était moins dans ce délire du binaire de l'américain qui va sauver l'Amérique mais aussi le monde par la même occasion face aux méchants terroristes. Voilà, il s'appelle Jack. D'ailleurs, les deux s'appellent Jack. T'as raison.
Jack.
Moi, qu'est-ce que je vais dire ? Moi, j'ai un souvenir de Sleeper Cell, qui est une série qu'on a un petit peu oubliée, mais qui était assez fine pour montrer l'ennemi intérieur. Et après, juste pour vous taquiner, n'oubliez pas NCIS Los Angeles, NCIS, Esprit Criminel, la version mondiale.
Beyond Borders.
Voilà, et puis Prison Break, je vous en avais parlé, avec nos personnages qui allaient délivrer des gens au Yémen. Il n'y avait pas besoin de visa.
Dans la
quoi.
Dernière saison, oui.
Voilà. Et n'oublions pas Strike Back, que je crois que tu aimes beaucoup aussi.
Qui était britannique à la base.
Mais qui est devenue américaine.
Qui s'est américaine, internationalisée, parce que voilà. ça voyage beaucoup aussi là-dedans.
Alors, récemment, on a aussi pu voir The Looming Tower sur Amazon, qui revenait sur les événements ayant conduit au 11 septembre avec les dysfonctionnements entre la CIA et le FBI. Dans le premier épisode de Jack Ryan, le 11 septembre est cité une dizaine de fois. Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de géopolitique dans les séries américaines, nous sommes toujours dans une ère post-11 septembre 2001 ? Est-ce que cette vision américaine, en plus, n'influence pas les fictions occidentales ?
Elle est toujours évidemment présente et je crois qu'elle le sera parce que c'est l'événement, en fait, si on regarde derrière nous, c'est l'événement le plus constructeur de la génération, de l'époque dans laquelle on vit, c'est le 11 septembre. Et ces échos qui ont été les attentats terroristes qu'on a pu vivre à travers le monde, même s'ils sont pas liés à la même cellule, même s'ils sont pas liés, on est finalement dans une ère du terrorisme. Ceci étant dit, c'est pour ça que j'en reviendrai. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, évidemment, et c'est pour ça que The Looming Tower est intéressant, parce que The Looming Tower revient à la source, quoi, finalement, de cette terreur-là. Mais là où Homeland est devenue intéressante récemment, même si ces deux dernières saisons sont pas les plus réussies, c'est qu'elle questionne aussi les troubles intérieurs des États-Unis, et ça, typiquement, propre à l'ère Trump, les extrémismes conservateurs, l'interventionnisme presque impalpable des Russes, et évidemment ce qu'on a dit de l'élection de Trump, etc. C'est-à-dire, on retourne à presque une époque de guerre froide. On retourne à quelque chose qui est peut-être plus... qui rend d'ailleurs The Americans, une série qu'on n'a pas encore citée, d'autant plus d'actualité, si j'ose dire. C'est qu'on en revient presque au bon vieil affrontement entre la Russie et les États-Unis qui revient au centre. Mais évidemment, le 11 septembre est toujours là, et oui, ça sera une tension dramatique majeure pour sans doute les 30 prochaines années.
En fait, aussi, tu l'as dit à ta manière, mais j'ai quand même vérifié pour être sûr de moi, mais le 11 septembre, c'est les attentats les plus meurtriers de l'histoire qu'on connaît, enfin, avec près de 3000 personnes tuées d'un seul coup. Donc du coup, ça a eu des conséquences, évidemment, sur les États-Unis qui sont alliés avec l'Occident de manière générale, et en plus, donc les terroristes ne s'attaquaient pas qu'aux États-Unis, ils s'attaquaient à des valeurs démocratiques, à la liberté d'expression, etc. Donc forcément qu'il y a eu des répercussions, ça a créé des guerres dans la vraie vie qui ont ensuite inspiré la fiction. Donc on est pour moi dans une continuation de les conséquences du 11 septembre, mais au long terme. Juste après, on était dans des séries assez va-t-en-guerre, etc., dans la réaction. Et là maintenant, on est plus dans les conséquences sur le long terme. Et les conséquences, elles sont partout, que ce soit dans nos pays ou au Moyen-Orient. Donc ça donne plein de matière pour les scénaristes pour les années à venir.
Ouais, moi je pensais à une série britannique, dont je me rappelle pas le titre, qui était en 4 épisodes l'année dernière, sur Daesh, vous allez m'aider, et qui racontait comment des jeunes britanniques partaient pour faire la guerre en Irak. Et en fait, la série était assez intéressante, et, mais en même temps montrait des choses. Voilà. Mais au bout d'un moment, à la fin du quatrième épisode, qui bouclait la saison, il laissait ouvert quelque chose où on disait que ça allait devenir un thriller. Alors qu'au départ, la série avait ce côté documentaire où on voyait ces jeunes Britanniques qui partaient s'engager pour des valeurs.
C'est la série de Peter Kosminski, voilà. mais son nom ne me revient pas. C'est passé sur Arte en France.
Sur Canal+.
C'est Canal+, qui l'avait passé, ouais. C'est Canal+, qui l'avait passé.
Donc, mais pour dire que aussi, d'un côté, il y a le 11 septembre qui est vraiment très prégnant, et de l'autre côté, en ce moment, c'est Daesh qui est partout dans toutes les séries.
Et on questionne évidemment on est moins, à l'époque de 24 heures chrono, c'était vraiment de la réaction au 11 septembre, c'est-à-dire comment empêcher l'attaque. On est beaucoup plus aujourd'hui dans des séries. Alors, Jack Ryan, c'est comment empêcher une attaque, mais en même temps, on prend plus le temps, maladroitement, Jack Ryan, d'expliquer un peu de chaque côté ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que Jack Ryan montre quand même les réfugiés qui doivent fuir, les bombardements américains sur la Syrie, montre en fait des choses qui n'ont pas justifié le geste des terroristes, mais commence à donner un peu plus de profondeur que ça pouvait être le cas à l'avance. Et Jack Ryan fait un truc par ailleurs mal, encore une fois, mais ne met plus en scène le 11 septembre, mais les attentats à Paris. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène qui est la recréation à peu de choses près de l'attaque de l'appartement à Saint-Denis. Et donc, les séries géopolitiques ou les thrillers antiterroristes, puisqu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, s'adaptent à l'évolution de la menace et à l'évolution du regard qu'on peut porter sur cette menace, même si elle reste encore très américano-centrée, avec un regard qui, pour Jack Ryan, est légèrement old school. C'est-à-dire de l'Amérique va sauver le monde, et accrochez-vous les mecs, surtout les pauvres petits Français, on arrive, on va vous sauver, quoi.
Moi, juste pour deux petits trucs, on parle de... D'abord, il y a une hégémonie sur les séries qui est américaine, donc déjà, faut pas oublier ça. Donc c'est ça ce qu'on regarde, et ça vient des États-Unis. Et je pensais, la dernière série qu'on a vue il y a pas très longtemps qui va arriver en France, c'est Condor, où justement, j'ai vu que deux épisodes, mais un des personnages qui est un analyste de la CIA, donc ça pourrait être Jack Ryan, explique à un de ses partenaires, oui, que... Si on arrive à ce genre de situation, c'est aussi parce que les musulmans ont subi des attaques, etc. Et donc, essaye de faire comprendre à son alter ego que c'est pas si simple. Et donc, il y a aussi des évolutions dans les séries. Après, ça dépend de quel média va les diffuser.
Enfin, Homeland à ce niveau-là est comme ça aussi. Ouais.
Homeland était déjà comme ça, mais limite, elle était précurseuse. Maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de séries qui vont avoir de la géopolitique en toile de fond, ou qui vont être effectivement de l'antiterrorisme, où on commence à mettre un peu un autre point de vue que celui des Américains. Mais c'est compliqué, sachant que, bon, on en parlera après, mais souvent, ces séries, elles prennent le point de vue de personnes qui sont des membres d'organisations officielles du gouvernement. Donc il y a un truc aussi quand même très... c'est la voie officielle en fait. Ces séries sont quand même la voie officielle d'organismes qui existent dans la vraie vie.
Alors on peut se demander quand même, est-ce que ces séries ne conservent pas le téléspectateur dans un état de peur permanente aussi? Est-ce qu'elles ne participent pas à une espèce de paranoïa générale chez les Américains, en effet, qui d'ailleurs apprécient ça, qui veulent voir ce genre de fiction? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ça me gêne pas dès que la paranoïa est subtile. C'est-à-dire qu'une série comme Homeland, sa paranoïa questionne. C'est pas juste trembler, chers citoyens. C'est questionnez-vous, c'est inquiétez-vous. L'inquiétude, c'est différent de la paranoïa. L'inquiétude, ça pousse à la réflexion, à essayer de se demander ce qui fonctionne pas. C'est ça que fait The Looming Tower, qui est pour moi une série pas parfaite, mais qui effectivement dit voilà, regardez, ça a vraiment déconné. Et ça, je pense qu'il y a de plus en plus de séries qui sont dans cette remise en question. Et ça, c'est important. Il y a plus que quelques séries comme Jack Ryan pour être justement dans le... En même temps, c'est rassurant, hein, parce que à la fin, le gentil, il arrête les méchants. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que c'est hautement... Enfin, une série comme 24, si on s'en souvient, c'était sacrément anxiogène quand même, quoi. Tu finis à chaque fois, enfin, t'en peux plus. Il faut que Jack, il chope le terroriste. Et en plus, la série est écrite de manière à ce qu'à un moment donné, quand il finit par torturer quelqu'un, on est tous là, ah bah oui, enfin, si tu réfléchis pas plus avant, tu regardes ça, tu dis, ah bah oui, il faut qu'il le torture, là. Faut quand même qu'il trouve où est la bombe aux États-Unis, quoi. Donc oui, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu malsain avec ça.
What I'm about to tell you is very dangerous. So you cannot tell another living soul about this, do you understand?
Okay.
I believe the attack in Houston was planned by Truxton Spangler and other very powerful men, and they're using Iran as a scapegoat.
Okay. Well, this is a joke.
Miles?
They dropped the evidence of Iran's involvement right into our lap so that we could come to the conclusion that they desire.
Why would they do that?
Over the past 20 years, API analysis has been appropriated by these men to manipulate world events and make money off of.
Alors c'était un extrait de Rubicon, car à côté des 24 et Jack Ryan, il y a quelques vilains canards qui fredonnent une autre chanson se montrant très critique vis-à-vis des théories officielles, vis-à-vis de l'administration américaine. Elles empruntent même une voie conspirationniste, comme les séries, comme les films américains dans les années 60-70, qui étaient à l'époque monnaie courante. Alors, donc il y avait Rubicon, récemment il y a eu American Odyssey aussi, pareil, où il y avait une conspiration.
Ouh, tout le monde l'a oublié celle-là.
J'ai pas vu même.
Les Condors rentrent dans cette catégorie-là
ouais,
aussi, en plus spectaculaire.
Voilà, et d'ailleurs les deux ont été, alors je ne sais pas pour Condor si elle va être annulée ou pas, mais
non,
les
elle
deux...
a été renouvelée.
Elle a été renouvelée, mm-hmm. D'accord.
Les ça deux... va pas aller avec la suite.
les deux autres ont été annulées très très rapidement. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont prêts à entendre...
Complot.
Voilà, le mot complot.
24 heures chrono jouait beaucoup sur le complot intérieur aussi, hein. Souvenez-vous des saisons.
Oui, c'est vrai.
Ouais, si, pas, voilà, vers quand ça, comment les audiences ont commencé à décliner. qu'est-ce que vous en pensez alors de ces séries plus conspirationnistes?
Bah, Homeland aussi, pardon, excuse-moi, Homeland des saisons 7 et 8, c'est très sur le conspirationnisme aussi.
C'est pas vraiment du conspirationnisme, c'est-à-dire que c'est, en effet, ça remet en cause le pouvoir américain, sans parler de faux attentats ou.
Dans la dernière saison, on met en question les fake news. Enfin, on revient sur la possibilité d'un. Mais sauf que c'est plutôt l'ennemi extérieur qui essaye d'exterminer le pouvoir en place. Mais bon, c'est encore un autre truc. Non, mais ce que je trouve le plus intéressant, sans être une série de conspirationnisme, le Bureau des légendes est finalement ce qui se rapproche le plus proche de Rubicon, c'est-à-dire de quelque chose d'une grande austérité et qui met en lumière la véritable complexité de ce monde-là, quitte, c'est vrai pour Rubicon, à jouer à mort sur le côté... Mais d'ailleurs, Rubicon, je crois franchement qu'il s'inspirait des Trois Jours du Condor et de ce genre de film-là qui ensuite donne la série Condor. C'est-à-dire des films où le héros est un analyste ou quelqu'un qui n'est pas du tout le sauveur de l'humanité et qui met le doigt dans un engrenage et qui au fur et à mesure réalise que dans Rubicon c'était des mots croisés, que le petit truc là qu'il a trouvé en fait que c'est en train de révéler un truc gigantesque. Et c'est ça qui est fascinant dans ces séries là, c'est pour ça que Jack Ryan et tout ça m'excite beaucoup moins, parce que ça part d'une menace de destruction totale. Dans ces trucs de conspirationnisme, c'est juste en fait il y a une mouche dans le bureau ovale. Et cette mouche-là peut tout foutre en l'air. Et c'est à cette mouche qu'on s'intéresse. C'est à ce petit détail-là de l'ombre. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qui fout les boules aussi. C'est ça où on se dit, en fait, on ne voit rien. Voilà.
Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, sur l'austérité de Rubicon et du Bureau des légendes, oui. En revanche, sur le fond et le comté conspirationniste, la DGSE, enfin, non, pour moi, le Bureau des légendes, malgré tout, en fait, de par justement la qualité de la série et par les détails qui sont apportés, c'est plutôt une ode à la DGSE pour moi. Ah, on est de leur côté.
J'ai pas dit que c'était une série conspirationniste. J'ai parlé d'une tonalité et du sens du détail, du fait que dans le Bureau des légendes, il n'est pas question de d'avions qui vont s'écraser sur la Tour Eiffel.
On est d'accord pour le sens du détail, mais du coup, pour revenir à ta question sur les séries conspirationnistes, en vrai, je pense que ça intéresse les Américains. Rubicon, la vraie question, c'est que c'était une série quand même qui était très exigeante, extrêmement lente, donc qui peut séduire un public plutôt niche. The Americans, elle a continué longtemps, mais elle a aussi une construction assez lente et ça n'a jamais été un succès. Un gros succès comme Homeland ou 24 heures chrono. Je pense pas que les téléspectateurs que les spectateurs soient méfiants ou n'aient pas envie de voir ce genre de série. Enfin, il y a
X-Files par exemple.
Ouais, voilà.
et X-Files c'était avant le 11 septembre.
Ah bah bien avant, oui. C'était 10 ans avant le 11 septembre. Pas 10 ans, 7 ans avant le 11 septembre, si je peux dire.
Oui, alors il y a peut-être un temps où tout le monde était patriotique juste après le 11 septembre, où on n'avait pas spécialement non plus envie de voir des séries qui remettent en cause éventuellement. Enfin, il y a eu tout un truc dans la vraie vie de conspiration. 11 septembre anti-américain qui était de très très mauvais goût pour un truc juste après l'attentat, donc peut-être que ça va finir par arriver, on n'en sait pas, ça se trouve on aura une série sur le 11 septembre, je veux dire. Oui.
J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on en revient plutôt à des séries de guerre froide. Ouais. On n'a pas cité Berlin Station qui est aussi une série d'espionnage assez discrète, mais où on est pareil dans le secret, dans le un bureau où les gens se regardent dans chien de faïence, où on sait pas qui ment, qui dit la vérité. On est plutôt dans l'humain et dans le l'angoisse que finalement cet ennui du quotidien là, du petit scribouillard du bureau cache en vérité des secrets incroyables. Et c'est ça qui est excitant dans ces séries là, c'est que on est littéralement, comme le fait très bien Rubicon, dans le mot croisé, dans les quelques phrases comme ça qui en fait cachent un océan de conspiration, de secrets et de choses qui peuvent se renverser. Le je crois que c'est à l'ère de la paranoïa, c'est ce qu'il y a de plus fort, plutôt que un type qui arrive avec une ceinture d'explosifs et qui s'enferme dans une banque avec 150 personnes.
Alors il y a The Americans, ce que vous avez cité, donc, qui est assez étonnant puisque les héros sont des Russes. Est-ce que c'est parce qu'il y a suffisamment de recul, vous pensez, parce que pendant 50 ans, les Russes ont été montrés comme des êtres abominables, sans aucune humanité. Là, on voit qu'on les montre comme des gens comme tout le monde, finalement. Si vous pensez que c'est parce qu'il y a suffisamment de recul et que peut-être dans 30 ans, on verra des musulmans plus humains à la télé, parce que pour le moment, même s'il y a des nuances, comme vous dites, dans les séries américaines, quelqu'un qui ne regarderait que des séries américaines, l'image du musulman,
c'était
il est quand même...
Slipper Cell, c'était
ouais.
Le cas. Hein.
Alors, ouais. Mais
c'est une exception. Ouais. Il y en a quelques-uns.
La série n'a pas trop marché, il y a eu 2 saisons, je crois.
Ouais.
Et juste pour appuyer ton propos, j'ai noté une récente étude qui montrait que les séries américaines renforcent les stéréotypes sur les personnes issues issues du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En gros, un seul chiffre, j'ai retenu parce qu'il y en avait plein. 78% des interprètes qui sont donc d'origine nord-africaine ou moyenne-orientale incarnent des terroristes, des soldats ou des tyrans dans les séries américaines. 78%.
Oui, ça c'est sûr qu'il y a encore, un léger effort à faire là-dessus.
Ouais.
Homeland, à ce niveau-là, était hyper ambigu parce qu'on se demandait pourquoi Brody priait. Est-ce que ça voulait dire qu'il était devenu le méchant, ou est-ce que c'est juste qu'il avait trouvé la paix intérieure dans l'islam? Et au bout du compte, on se rendait compte que c'est quand même qu'il avait eu un petit problème. Mais bon.
Mais peut-être c'est parce qu'on ne voit pas beaucoup les séries pakistanaises ou indiennes en France. Hein. Ça se trouve, les stéréotypes sont de l'autre côté.
Et les Anglais sont quand même moins stéréotypés que ça. Mais pour répondre plus concrètement à ta question sur The Americans, oui, clairement, il y a une évolution. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant dans la série, c'est que ça permet de faire un contre-champ presque. Alors après, les personnages américains ont un rôle très important. Mais c'est de finalement revenir à ce qu'on pouvait penser. Et je citerai Sting, qui disait « J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants ». Et c'est ça aussi que questionne la série. C'est finalement l'humanité des personnages, et non plus d'en faire des machines de guerre comme Jack Bauer, mais d'en faire au contraire des humains qui subissent des pressions et qui se posent des questions. Et l'Amérique, comme le dit très bien The Americans, il y a un moment où on peut presque se demander si c'est peut-être bonnet blanc et blanc bonnet avec l'URSS. En tout cas, c'est la question que se posent les personnages de The Americans au début de la série.
Alors, nous allons terminer maintenant ce podcast avec un coup de cœur. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur une série que nous n'avons pas évoqué, qui traite de géopolitique?
Alors, moi, j'allais traiter Game of Thrones.
Oui. Et choix original.
Ça a l'air bien, ça passe quand, c'est où?
Alors, d'abord, parce que c'est une série qui, justement, parce qu'il y a du recul, on peut voir les choses. Et non, mais il y a une étude très sérieuse, assez rigolote. Comme c'est une série qui est très regardée, il y a toujours des chercheurs. Et donc, ils ont analysé cette série sous l'angle... Donc, la maison de Lannister, c'est l'Arabie Saoudite, etc., pour voir les rapports géopolitiques. Après, ce qui est rigolo à connaître, c'est que la série a été imaginée à partir de l'histoire des rois Plantagenet. Et donc, ça parlait de géopolitique, mais il y a plus de 600 ans.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des séries historiques, mais les Tudor et consorts, c'est de la géopolitique à tous les lieux. Enfin, quoi qu'on pense de ces séries-là, évidemment.
Même Marco Polo.
Oui.
Après, il faut voir le degré de géopolitique qu'il y a dans ce genre de série. Dans les Tudors, il y a surtout des scènes de sexe il y a plus de scènes de sexe que de géopolitique.
Alors Marion, toi,
Alors moi, je vais recommander The Honorable Woman. C'était une mini-série anglaise de la BBC qui a été lancée en 2014. Et en fait, dans cette série, Maggie Gyllenhaal, elle incarnait une femme d'affaires anglo-israélienne qui s'appelait Nessa Stein, qui était reconnue pour son engagement envers le processus de paix en Palestine. Donc elle travaillait depuis plusieurs années à un projet ambitieux qui est de connecter la Cisjordanie à un réseau de fibre optique. Et donc la veille du lancement de ce grand projet, en fait, son partenaire palestinien se fait assassiner. Donc en gros, ça va déclencher une série d'événements où la géopolitique complexe se met en branle, tout et en même temps l'histoire intime de cette femme. La série est écrite et réalisée par Hugo Blick. Moi, j'avais trouvé ça incroyable. C'était haletant, exigeant, subtil, complexe. Enfin bref, tous les adjectifs dithyrambiques, je les avais utilisés au moment pour faire la critique. Et aussi, c'est une des rares séries qui met en scène un personnage féminin fort et complexe. Et ça, ça court pas les rues.
Dans ce monde-là, ouais.
Dans ce monde-là, ça court pas les rues. Donc moi, je vous la conseille chaudement.
Voilà. C'est vrai que la géopolitique, d'ailleurs, dans la réalité actuelle, même s'il y a quand même de plus en plus de présidentes,
oui, ça se féminise.
Ça reste encore un monde très, très masculin, et ça c'est vrai que du coup quand on pense à ces séries là c'est beaucoup de séries avec pas mal de personnages masculins, c'est peut-être tristement le reflet d'une forme de vérité politique.
Je pense qu'on peut ouvrir les points de vue aussi.
Oui, certainement. Non, mais ce que je veux dire c'est que la réalité c'est bien de la montrer aussi, même si elle est problématique. Moi c'est pas une série que j'ai trouvé géniale, que je voulais citer, mais en plus, comme elle est en partie française, c'est bien. C'est Occupied qui diffuse Arte, qui est une série d'anticipation quelque part, et Revla les Russes, qui met en scène comment la Russie profite d'une tentative de la Norvège de mettre fin à l'exploitation du pétrole pour, en quelque sorte, occuper, hein, d'où le titre de la série, la Norvège, a priori pour la contraindre sous mandat de l'UE, ou de l'ONU plutôt, je crois, de l'UE, c'est l'UE, hein, à exploiter son pétrole pour que le monde entier, enfin en tout cas les pays de l'UE, soient arrosés en pétrole, et qui évidemment pose la question de comment réagir face à une occupation, de la nocivité possible de l'occupation russe, et évidemment en reflet, on parlait de séries historiques, mais finalement Un village français est une série géopolitique. Enfin, j'exagère, mais en gros l'histoire est évidemment importante dans l'approche géopolitique, et Occupied qui pourtant parle d'un présent imaginé, parle aussi du passé, et c'est ça qui est intéressant dans cette série-là.
Et Occupied a causé une crise diplomatique énorme entre la Russie et la Norvège.
Bon, en tout cas, quelques désagréments. Ouais. Je suis pas sûr que ça ait coupé les relations entre les deux pays, mais semble-t-il que l'ambassadeur était un peu vexé.
Ouais. Alors, comme quoi, elle a visé juste, en fait.
Et voilà, ce podcast est terminé. Nous avons essayé de traiter de géopolitique dans les séries en 30 minutes chrono. J'espère que nous ne sommes pas trop mal sortis. Merci à Marion Olité de Combini.
Toujours un plaisir.
Frédéric Rapilly de T7 Jours.
Merci.
Et Pierre Langlais de Télérama.
Merci.
Merci à Jules de l'avoir mis en boîte ici à l'antenne. Au revoir.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
Put it in, what?
That's the last one.